Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part par la fin du 19e siècle. Ce jour de 24 notes secondes, eh bien nous allons évoquer la carrière d'un réalisateur américain qui certes ne figure pas dans le panthéon des plus grands, mais qui a quand même réalisé quelques films tout à fait remarquables, dénommé Edward Dmytryk, né le 4 septembre 1908, non pas aux États-Unis, mais en Colombie-Britannique, donc au Canada. Alors Dmytryk, ça s'écrit D-M-Y-T-R-Y-K, et c'est dommage qu'on ne prenne pas les noms propres au Scrabble, mais vous le savez déjà. Les parents d'Edward Dmytryk, eh bien, ce qui explique d'ailleurs son nom, ils sont ukrainiens. Sa maman s'appelle Frances Berezovsky et son papa s'appelle Michael Dmytryk. Et son papa, eh bien, il exerce des métiers relativement modestes, chauffeur de camion, ouvrier de fonderie, etc., etc. Ma petite fiche ne dit pas grand-chose sur les débuts de sa vie, mais elle a dû être bien modeste à l'image de celle de ses parents. Et en tout cas, ma petite fiche dit que c'est en 1923 qu'il débute au cinéma comme coursier à la Paramount Picture avant de gravir les échelons dans une bonne carrière américaine comme beaucoup de réalisateurs en ont vécu, puisqu'il devient ensuite chef monteur avant de tourner son premier moyen-métrage en 1935 sur la piste de l'épervier. Des premiers films d'Edward Dmytryk, eh bien, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose et il n'a pas de trace musicale qui soit exploitable. Du coup, on va écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1944, donc à la fin ou presque de la Seconde Guerre mondiale, qui appartient à un genre qui, à l'époque, faisait fortune. Enfin, il faisait fortune déjà depuis les années 30, depuis bien avant la Seconde Guerre mondiale, qui est le film noir, c'est-à-dire des histoires policières, des histoires de détectives, des histoires de méchants avec souvent des femmes fatales, des détectives alcooliques et des policiers aussi retors que les gangsters qu'ils poursuivent, tout un genre déjà littéraire avec quelques romanciers fameux comme Dashiell Hammett ou Raymond Chandler et qui a connu une déclinaison des plus brillantes au cinéma. C'est le cas d'Adieu ma belle, puisque c'est inspiré d'un roman du même titre signé Raymond Chandler. Alors ce roman, il avait déjà été adapté une première fois, 3 ans à peine avant le film d'Edward Dmytryk, mais on avait largement édulcoré son propos, et notamment on avait fait disparaître le fameux détective Philippe Marlowe, qui est le héros d'un grand nombre de Raymond, romans de Raymond Chandler. Voilà, j'ai déjà été assez bavard, on en dira un petit mot d'Adieu ma belle après, mais on va écouter un extrait de sa bande originale. Elle est signée de Roy Webb dans 24 notes secondes. Un bien court extrait, avec mes excuses, de la bande originale d'Adieu ma belle, Farewell my lovely, en anglais, un film d'Edward Dmytryk tourné en 1944 d'après un roman de Raymond Chandler. Alors, faut quand même citer les interprètes principaux, et en l'espèce Philippe Marlowe, qui était joué par l'acteur Dick Powell, plutôt connu pour ses rôles dans les comédies. Philippe Marlowe, eh bien, il aura été joué par les plus grands des acteurs américains, puisque Humphrey Bogart lui-même l'incarnera dans Le Grand Sommeil de Howard Hawks, que Robert Montgomery l'incarnera alors dans un très curieux film qui s'appelle La Dame du Lac, et qui, à ma connaissance, est le seul film tourné en caméra subjective. C'est-à-dire qu'en fait, il est vu par l'œil de Philippe Marlowe, mais on ne le voit, lui, Philippe Marlowe, qu'une seule fois dans un miroir. Ça fait un effet un peu bizarre et, à vrai dire, un peu lassant. On vit aussi George Montgomery, et on vit aussi Elliot Gould, qui interpréta le personnage dans un film d'Altman, alors bien des années après celui d'Edward Mitrick, dans les années 70. C'était Le Privé, The Long Goodbye, un petit bijou. Et puis aussi, il y a eu un autre remake d'Adieu ma belle que celui que j'ai déjà évoqué avant d'écouter un extrait de la bande originale. Un remake tourné cette fois dans les années 70, à une époque où on faisait beaucoup de films se passant dans les années 30-40. Il y avait une sorte de revival qui était pourparvu au succès du Chinatown de Roman Polanski en 1973, si je me souviens bien. Et donc Dick Richards tourna en 1975 une nouvelle adaptation dans laquelle c'était Robert Mitchum qui avait vraiment le poids et le charisme pour interpréter Dick Marlowe. Edward Mitrick, quant à lui, ben peut-être que c'était dû à ses origines assez modestes. Eh bien, en 1944 et 1945, il fut adhérent au Parti communiste américain. Et oui, ça existe, en tout cas ça existait à l'époque. Et ma foi, cette adhésion lui sera d'une certaine manière fatale, puisqu'il sera l'une des victimes de la commission des activités anti-américaines du fameux sénateur McCarthy, et que de ce fait, il sera dans ce qu'on appelle les 10 d'Hollywood, c'est-à-dire 10 qui étaient essentiellement des scénaristes, mais aussi des réalisateurs comme Jules Dassin, 10 qui furent blacklistés, si vous me pardonnez cette anglicisme, c'est-à-dire qu'ils ne purent plus, en tout cas de manière officielle, ni travailler, ni tourner, ni faire des scénarios à Hollywood. Et Edward Mitrick fut contraint à l'exil en Grande-Bretagne, où il resta 2 ans, et où il tourna d'ailleurs 2 films, dont l'un, L'Obsédé, est de belle facture. Et quand il revint aux États-Unis, il purgea sa peine, car il avait été condamné à 6 mois de prison, et puis surtout, il dénonça ses petits camarades, ce qui fut peu apprécié dans le milieu américain, même s'il était loin d'être le seul. Beaucoup avaient collaboré d'ailleurs de façon assez joyeuse, comme Gary Cooper, pour ne pas le citer. Mais Edward Mitrick, ce fut quant à lui une sorte de tâche dans le reste de sa carrière. Alors on va écouter la bande originale d'un film avant cette tâche, si vous me passez l'expression, et évidemment après le reste de sa carrière après cette tâche. Le film avant son exil en Grande-Bretagne, il s'appelle Feu croisé. C'est un film de 1947. Dans les rôles principaux, on retrouve Robert Young, Robert Mitchum déjà cité, Robert Ryan, tiens, 3 Robert, et Gloria Graham. C'est à nouveau un film policier. Ça s'appelle Crossfires in English, Feu croisé en français. La musique est à nouveau de Roy Webb, et on en écoute un extrait dans 24 notes secondes.
What did you say your name was?
Jenny, because I'm from Virginia. I sure get tired of it here.
What do you work here for, then?
For laughs, dear, for laughs.
Every night?
Every night. To nothing.
Until when?
Till we close.
Then what?
Then I sleep. Me and myself in my great big bed, we sleep. I could have killed my girlfriend the other morning. She came.
You got that in quick, didn't you?
Drink up and be nice.
You know what I'd like to do?
Mm-hmm.
I'd like to take you dancing.
That's what the music's for. I work here.
I mean, really take you dancing. The two of us going somewhere. Eating something. Talking about ourselves. I'm serious.
Sure, I know. I remind you of your sister.
You remind me of my wife.
Be nice. Order us some more drinks, and then we'll dance.
I've had enough to drink.
Tell me why. Just because my color's shady, that makes me different, maybe. Well, that's why they call me shy.
Want some coffee?
Sure.
I'm her husband. I'm Ginny's husband. I was a soldier. I conked out. You're wondering about this setup, aren't you?
Yeah, I guess I am.
I'll ask her then. She was a tramp when I married her. I didn't know it at first, but I knew it before we were married. That's one of the reasons I enlisted, to get away from her. When I couldn't wait to get out and come back to her. And when I did, she didn't want me. Funny, isn't it? But I still want her. I still love her. You know what I just told you? That's a lie.
I see.
I'm not her husband. I met her the same as you did at the joint. I can't keep away from her. I want to marry her, and she won't have me.
I see.
You believe that? Oh, that's a lie, too. I don't love her, and I don't want to marry her. She makes good money there. You got any money on you?
No.
She makes good money sometimes. Hey, you suppose I could be a soldier? Maybe I could in the regular army. Make a good rating and make some dough by the next war.
Why not?
Why not? Because I don't want to. Why do I want to be a soldier? I'm too restless. I don't know what I want to do. You gonna wait for her?
I don't know.
I'll wait for her if you want to. Since we've had some coffee, I'm gonna take a nap.
Voilà, là vous étiez en plein dans le film noir, un extrait de la bande vraiment originale de Feu croisé, Crossfire, un film de 1947, adapté d'un roman de Richard Brooks. Richard Brooks qui ensuite fut un des grands réalisateurs américains des années 50-60. Et donc le film raconte l'histoire du meurtre d'un civil juif par un soldat. Il y a trois soldats incarnés donc par Robert Young, Robert Mitchum, Robert Ryan, comme ça... C'est complet, et évidemment, bien, il s'agit de trouver quel est le bon. Évidemment, il y avait une femme, alors on l'a entendu, elle, je n'ai pas reconnu les voix des garçons, je l'avoue, mais on a entendu Gloria Graham au début de cet extrait, et on a compris qu'elle faisait ce rôle de femme fatale. Alors, femme fatale, c'est comme ça que les Anglais disent, hein, ils le disent avec l'expression française, femme fatale qui, évidemment, attire haine, amour et toutes ces sortes de choses. Le film obtint en 1947 au Festival de Cannes un prix qui me laisse rêveur, qui est le prix du meilleur film social. Alors déjà, au Festival de Cannes, le prix du meilleur film social, ça me paraît un peu bizarre, mais en tout cas, c'était encore plus bizarre de le voir attribué à un film policier comme celui d'Edouard Mitry. Car je vous avais promis, si l'on veut, un film d'avant la chute, enfin en tout cas d'avant les dénonciations d'Edouard Mitry et un après. Et évidemment, on va évoquer maintenant Ouragan sur le Caine, un film tourné en 1954 dans le rôle principal duquel on retrouvait Humphrey Bogart, déjà cité. C'était le 71e film d'Humphrey Bogart qui n'a pas tourné que Le Grand Sommeil et des chefs-d'œuvre, qui au début de sa carrière a fait énormément de second rôle avant d'acquérir la célébrité quelque part pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce film, eh bien, Humphrey Bogart joue un personnage un peu trouble, pas vraiment d'ailleurs sympathique et un peu fragile, ce qui était quand même largement pour le coup à l'opposé des rôles qu'il avait jusque-là interprétés. On se souvient par exemple de sa fameuse interprétation de Rick dans le Casablanca de Michael Curtis, tourné pendant la guerre. Certains voulurent voir d'ailleurs une sorte d'analogie entre le parcours de Humphrey Bogart dans le film. Le film raconte une histoire de mutinerie sur un bateau, Ouragan sur le Caine, c'est le nom du bateau. Certains firent un parallèle entre le destin du personnage incarné par Humphrey Bogart, le capitaine Quaig, et celui d'Edouard Mitry qui s'était donc effondré dans ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières et qui avait donné des noms d'une manière assez hypocrite. On était scandalisés parce qu'en fait tous ces noms étaient déjà connus, c'était un jeu entre le jury et les accusés. On écoute un extrait de cette bande originale d'Ouragan sur le Caine. Ça s'appelle The Caine Mutiny, c'est plus clair en anglais. La musique qui est du grand Max Steiner, le tout dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà un extrait de la bande originale signée Max Steiner d'Ouragan sur le Ken. Alors Max Steiner, lui, il va carrément dans le militarisme musical à tout craint. Le film, lui, ben, il présente une image plutôt contrastée de la chose, puisque je l'ai dit, Humphrey Bogart interprète le rôle d'un capitaine incompétent, mesquin, presque un malade mental, et contre lequel se révoltent ses officiers. Et après, il y a évidemment un procès, car mutinerie égale procès. Et en fait, lors du procès, le capitaine Quaig, incarné par Humphrey Bogart, s'effondre. Je vous l'ai dit, on était loin des rôles, sans coup férir, si on peut dire, d'Humphrey Bogart dans les années 40. Il fut nominé à l'Oscar du meilleur acteur pour cette performance, mais ce fut Marlon Brando, qui éclatait dans Sur les quais d'Alia Kazan, qui l'obtint cette année-là. Quant à Edouard Mitrick, eh bien, en 1954, il tourna l'un des premiers westerns antiracistes. Il faut dire que Hollywood avait beaucoup accablé les nations indiennes avant-guerre dans des westerns au mieux caricaturaux, au pire scandaleux, qui ne faisaient pas de demi-mesure sur indien égal sauvage. Dans les années 50, on commença à comprendre que ce qu'on avait pris pour une conquête était en fait un génocide, pour le faire simplement. Et donc on tourna quelques westerns qualifiés de progressistes. C'est comme ça qu'on appelle tout ce qui n'est pas conservateur aux États-Unis. Et La Lance Brisée, c'est le titre de ce western, Broken Lance, fut assez remarqué pour cela. Par contre, on va écouter un extrait d'un autre film dans lequel on va retrouver Humphrey Bogart. Un film tourné en 1955 qui s'appelle La main gauche du Seigneur. Alors, c'est l'histoire d'un aviateur incarné par Humphrey Bogart qui, à la suite d'un concours de circonstances, se trouve obligé de revêtir les habits d'un père catholique qui a été tué sous ses yeux. Et s'en suivent évidemment, vous le devinez, un certain nombre de péripéties ou, je dirais, la religiosité marquée de la nation américaine peut s'exprimer de façon parfois un peu incompréhensible de ce côté-ci de l'Atlantique, mais quand même le film était marqué par la performance d'Humphrey Bogart et le respect aussi pour le rôle qu'il se trouvait amené à incarner. Il faut dire aussi, petite note nostalgique, que ce fut le dernier film de Jane Tierney, qui dans les années 40 avait été une actrice irradiante du cinéma américain, qui avait notamment été l'interprète principale de Laura d'Otto Preminger, un des grands films noirs évoqués tout à l'heure, et Jane Tierney qui venait de faire une pause, entre guillemets, de 6 ans pour une grave dépression, tourna ce dernier film avant de sombrer ensuite dans une fin de vie des plus misérables et qui ne correspondait certes ni à son charisme ni à son talent. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée d'un autre grand de la musique de film américaine des années 50-60. Alors après Max Steiner, c'est au tour de Victor Young, The Left Hand of God, La main gauche du Seigneur, dans 24 notes secondes. L'élégiaque partition de Victor Young pour un extrait de la bande originale de La main gauche du Seigneur, un film d'Edouard Mitrick. Edouard Mitrick qui continua à tourner jusqu'en 1979 et nous aura quitté le 1er juillet 1999, soit 20 ans plus tard, après une carrière, ma foi, bien remplie. Et on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale, c'est mieux, d'un film que la MGM voulait comme un deuxième Autant n'emporte le vent. Mais il n'y a qu'un seul, Autant l'emporte le vent, ça s'appelle L'Arbre de vie, un film très cher et qui rapporta peu d'argent. Montgomery Clift et Elizabeth Taylor étaient dans les rôles principaux. Johnny Green était à la musique. On en écoute un extrait dans 24 secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.